Bonjour, merci d'être venu très nombreux cet après-midi pour écouter Marcel Pérez qui va vous parler notamment de Jacques Merlet. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi d'intituler notre entretien Le dialogue des muses. Jacques Merlet est né à Sainte-Foy-la-Grande le 5 décembre 1931 et il est décédé à Paris le 2 août 2014. Et il se trouve que les obsèques de Jacques Merlet ont eu lieu à l'église Sainte-Croix, je crois que c'était le 6 août, il me semble, 7 août, d'accord. Et Marcel Pérez a pris une part très importante à la célébration de ses obsèques en choisissant les psaumes qui allaient être dits ou chantés et également en chantant lui-même. Benjamin Allard s'était déplacé spécialement pour tenir l'orgue Dom Bédos de Sainte-Croix, pour lequel Jacques Merlet avait tant fait pour la restauration de cet orgue. Jacques Merlet avait une personnalité rayonnante. C'était quelqu'un de fondamentalement généreux. Et Jacques Merlet a été très précieux. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il a eu un AVC au mois de novembre 2000, ce qui fait que nous ne l'avons plus entendu sur France Musique entre novembre 2000 et son décès le 2 août 2014. Donc, Jacques Merlet est peut-être méconnu aujourd'hui, notamment de la génération des plus jeunes, alors que ceux qui ont écouté France Musique ou France Culture dans les années 60, 70, 80, 90 ont un souvenir extrêmement marquant de Jacques Merlet. Alors j'ai porté ici la cassette du premier concert de musique baroque auquel j'ai assisté, qui était un concert au Temple du Ha, c'était le 18 décembre 1984, et mon ami et collègue Martine Courchinou, qui est ici présente, nous étions professeurs tous les deux au lycée de Bazas, et nous rentrions après un conseil de classe, et nous entendons sur France Musique Jacques Merlet déclarer « Les Bordelais ont bien de la chance de pouvoir entendre ce soir Henri le Droit au Temple du Ha à 21h ». Eh bien, nous avons répondu à cette invitation et nous étions au premier rang et nous avons été totalement éblouis par ce concert. Il se trouve que les concerts organisés par Le Carré étaient enregistrés et que l'on pouvait se procurer les cassettes de ces concerts. Et c'est une cassette qui est extrêmement précieuse. C'est un concert qui était consacré à des motets de Schütz, de Schmelzer, de Johann Christoph Bernhardt et Buxtehude. Également, il y avait aussi une sonate pour la viole de gambe de Abel. Alors, on va parler de la personnalité de Jacques Merlet, à la fois pour la musique, d'abord, peut-être, pour les musiciens, qu'il a tellement aidé à faire connaître, à faire aimer, et aussi pour les mélomanes. Alors, moi, je me situe du côté des mélomanes, même si, sans être musicien moi-même, j'ai eu des activités paramusicales. Par exemple, je suis pour 90% responsable du programme de ce CD qui a été enregistré par Hugo Rennes de la Symphonie du Marais en 1995 pour le tricentenaire de la mort de La Fontaine. Et nous avons d'ailleurs découvert une œuvre qu'on croyait n'avoir jamais été mise en musique par Charpentier, par Marc-Antoine Charpentier, sur un livret de La Fontaine. Plus tard, j'ai eu aussi d'autres activités musicales avec Jean-Paul Combé, le créateur des disques Alpha. Et c'est ainsi que nous avons eu la chance de faire venir Gustave Léonard à Sainte-Croix. Et il me semble que c'est le premier concert qui a été organisé sur l'orgue de Sainte-Croix, restauré par Pascal Coirin. Un concert, là aussi, merveilleux. Bien. Donc, moi, je ne suis pas musicien, mais l'amour de la musique que m'a insufflé, en quelque sorte, Jacques Merlet, m'a conduit à certaines activités musicales. Il m'est arrivé aussi d'être récitant, alors ça, très mauvais certainement, lors de concerts, parce que c'est très difficile, je dirais, de parler sur une scène à côté des musiciens. Il vaut mieux écouter la musique toute seule, me semble-t-il. Bien. Alors, Marcel Pérez, vous avez eu la chance de rencontrer assez tôt dans votre carrière de musicien et de votre ensemble organum, Jacques Merlet, et vous avez enregistré plus de 30 disques, j'avais compté 33, mais je me trompe probablement, et d'autre part, vous continuez bien sûr à avoir une activité extrêmement, extrêmement vivante de concertiste, enfin de concertiste, je ne sais pas si le mot ne convient pas.
Oui, je fais des concerts.
Bon, d'accord, vous faites des concerts, voilà. Vous faites des concerts à partir notamment de votre centre qui se trouve à Moissac. Alors, peut-être qu'on peut commencer par parler...
Allez-y,
par votre rencontre avec Jacques Merlet.
Déjà, pourquoi suis-je là ? Donc, comme on vous l'a dit, on a enterré Jacques il y a un an et demi maintenant, ici à Bordeaux. Et bon, Bordeaux était sa ville, son lieu. C'est quelqu'un qui a porté partout en France et partout dans le monde où il a pu aller l'énergie de la Gascogne, son rayonnement, sa force, la force de son verbe. Ceux qui ont connu Jacques Merlet savent que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Et il était fascinant quand il parlait, aussi bien à la radio, mais en privé encore. Et c'était un homme extrêmement bon vivant. On a pris des fous rires qui pouvaient durer des soirées entières avec lui. Parce qu'il savait voir le monde avec ce regard premier. Et un regard intransigeant aussi, parce que Jacques était en fait quelqu'un d'intransigeant. Il supportait pas la médiocrité, il supportait pas l'insulte que l'on pouvait faire à l'art en général. Et donc cette exigence l'amenait toujours à chercher, à comprendre, ouais, à être en éveil. Et vous voyez, cette rencontre autour de Jacques pour être l'occasion de réfléchir globalement à ces phénomènes qu'on appelle culturels aujourd'hui. Qu'est-ce que la culture ? Bon, c'est un mot qui est galvaudé souvent de nos jours. Remarquez que les anciens ne parlaient pas de culture. Il n'y a pas de ministère de la culture du temps de Louis XIV. Vous voyez, non, il y avait la conscience de participer à une œuvre commune, de construire un patrimoine commun qui dépasse largement les individus. Et également la responsabilité de recevoir ce qui a été fait déjà. Donc, je crois que d'abord, si on va à l'extrême horizon de ce que nous appelons aujourd'hui la culture, il y a ce patrimoine vivant qu'on maintenant commence à appeler patrimoine immatériel. On commence à prendre conscience que patrimoine, c'est pas seulement des beaux édifices et des beaux tableaux. Patrimoine, c'est aussi une pensée vivante. Et la pensée vivante, son terrain d'incarnation privilégié, ben c'est l'art. Remarquez, lorsqu'une civilisation disparaît, même lorsqu'une religion disparaît, qu'est-ce qui reste ? Les œuvres d'art. Plus personne ne craint Pharaon, mais les pyramides continuent à nous poser des questions, à nous fasciner. Et d'ailleurs, si on part de l'Égypte, pour les Égyptiens, l'art était la fonction première de l'acte religieux, ce que nous appelons art aujourd'hui. Quand vous pensez que la survie dans l'au-delà dépendait d'une statue, de soie qui avait été faite. Donc vous voyez l'importance qu'avait celui qui allait faire la statue. D'ailleurs, quand Moïse part avec tout son peuple, il y a les fabricants d'objets. L'épisode du veau d'or nous le montre. Donc l'art a, de fait, une fonction métaphysique, parce que finalement, ce qui résiste à la durée d'une vie biologique, même à la durée d'une civilisation, participe d'une certaine manière à une dimension que l'on pourrait appeler métaphysique. Et dans ce patrimoine commun, qui est plus ou moins conscient, eh bien, ce patrimoine, comment va-t-il se manifester? Comment va-t-il nourrir? Comment va-t-il permettre au corps social en général d'évoluer en gardant la conscience ou en cultivant la conscience du patrimoine? Eh bien, il faut des intermédiaires, il faut des passeurs. Il faut des passeurs et à différents niveaux. Alors Jacques Merlet était un passeur exceptionnel parce qu'il avait une espèce de sens inné de la qualité. Il y avait chez lui beaucoup, beaucoup de l'honnête homme du XVIIe siècle, voyez, des hommes pour qui aucun domaine de la culture ne devait être négligé. Et en même temps, il était tout à fait de son époque. C'est un anarchiste. Mais qui a pu et qui a su entrer dans une institution comme la radio. C'est pas évident. Hein, et c'est pas évident de durer. Il a duré, je ne sais pas combien d'années il est resté, mais presque 30 ans ou plus, je ne sais pas. C'était pas évident. Et donc, il faut des intermédiaires, des passeurs. Et puis, il faut ce qu'on appelle des artistes, des penseurs, des gens qui, apprenant à rêver le monde, peuvent donner à leurs contemporains des lueurs de ce qu'est le rêve du monde aussi. Alors, Jacques avait un instinct, une sûreté d'instinct. Vous voyez, tous les grands noms de la musique ancienne qui ont commencé dans les années 80, fin des années 70, que ce soit Philippe Hervaig, William Christie, Jordi Savall, ben Jacques a été le premier à parler d'eux, à les faire venir à ses émissions. Moi-même, et pourtant j'étais bien jeune, quand j'ai créé Organum, j'avais 24 ans, vous voyez. Et 26 ans, pardon. Et Jacques, immédiatement, a compris qu'il se passait quelque chose, qu'il se passait quelque chose dans cette aventure-là. Organum, au début, avait une équipe de chanteurs extraordinaires. Il y avait Henri Ledroit, Gérard Laine, Benjamin Bagbee, le directeur de Sequentia, et puis Joseph Bennett et Dominique Vélard, oui. Donc c'est cette première équipe que Jacques a entendue. Et immédiatement, on a fait des tas d'émissions en France Culture. À l'époque, il y avait une émission sur FR3 aussi qui était extraordinaire. Ça passait le dimanche après-midi. Et puis, il parcourait la France et là, il allait chercher un petit artisan qui faisait des instruments dont tout le monde s'en fout. Mais enfin, il y a des hommes qui font encore des choses comme ça. Voilà, c'était un homme qui se sentait aimanté instantanément par ce qui se passait et qui était totalement dédié à cette espèce de cette sorte de mission. Hein. Il partait avec un agra alors qu'il n'avait aucun mandat de la radio parce que mais il y allait avec son agra et puis il au fin fond de la France, il allait interviewer des musiciens avant ou après un concert, enregistrer deux, trois trucs, et puis se démerder après pour passer ça dans une de ses émissions. Voilà, c'était Jacques, c'était un vrai, quoi. C'était un vrai dans tous les sens du terme. Alors, je me souviens encore, je ne sais plus lorsqu'il était fait, il a été fait officier des arts et des lettres, il y a 7-8 ans, ou 10 ans, je ne sais plus. Et Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre à l'époque, avait fait un petit discours sur Jacques Merlet. Il dit, et Jacques Merlet, grâce à qui on a redécouvert la musique baroque, tralala, tralala. Et là, Jacques, qui pouvait à peine parler, il a dit, la musique médiévale, la musique médiévale. Ben oui, c'est un homme qui s'intéresse à tout ce qui est musique, quoi. Et Dieu sait s'il s'est battu justement pour que la musique renaissance, la musique médiévale ait aussi une audience. Malheureusement, ça s'est un peu fermé. Hein. On voit qu'aujourd'hui, quand on parle de musique ancienne, on pense tout de suite à la musique baroque. Et on n'a pas encore réalisé les continents immenses que sont la musique du XVIe siècle. Mais alors, si on va plus loin, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, parce qu'on peut quand même aller scruter jusqu'au VIe siècle. Et il n'y a pas de raison de s'en priver, mais malheureusement, les programmateurs, vous voyez, ils sont encore très loin. On est loin d'avoir un festival de musique du 8e siècle ou de musique du 14e, vous voyez, comme on en est loin. Mais un homme comme Jacques Merlet savait ces choses-là. Il avait cet art aussi de faire parler les gens, quoi. D'aller, voilà, c'était toujours, parce que ces émissions, en fait, on ne préparait rien, quoi. On faisait une bonne bouffe en général. Et on parlait d'une chose, d'une autre. Et puis, quand arrivait l'émission, tout de suite, il se passait quelque chose. Et voilà, il savait aller chercher ses interlocuteurs vers ce qu'ils ont de propre, d'essentiel, en fait, ce qui est au cœur de la personne et qui les fait agir, quoi. Et l'action, quoi. Tout à l'heure, donc, je sais ce qui c'est ce schéma, l'espèce de patrimoine immatériel, et puis des gens qui vont créer des situations, les rencontres pour que ça existe. Et les artistes, alors, les artistes, évidemment, ce sont des médiateurs qui se consacrent de manière totalement intuitive, hein, parce que, et d'ailleurs, ce sont des intuitions qui se révèlent souvent assez jeunes, quand on voit que quelqu'un qui part dans une direction dès l'enfance qui ne doute jamais, même si on ne sait pas vers quoi on va. C'est ce qui va distinguer l'artiste des autres catégories de personnes. C'est que l'artiste ne sait pas, il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il est sur le chemin, quoi. Il sait qu'il est sur le chemin. Mais quand il faut créer une œuvre, vous ne savez pas ce que vous allez composer, vous ne savez pas du tout. Mais vous vous mettez en situation de recevoir quelque chose, quoi. C'est une science de l'attente, quoi. Savoir attendre et attendre le signe. Voilà. Et le signe, on ne sait pas quand il va arriver, on ne sait pas comment il va arriver, on ne sait pas sous quelle forme, mais quand il est là, on le reconnaît. Et c'est à partir de ce signe que va se dérouler ensuite toute l'œuvre, quoi. Donc c'est bon pour l'œuvre et c'est bon pour toute une carrière aussi. Et ce mouvement, doit atteindre ce qu'on appelle un public, mais en fait... Le public, c'est simplement des personnes qui vont s'ouvrir à cette révélation d'un monde qui est là, d'une énergie qui est toujours là. Vous voyez, quand vous jouez une œuvre, voilà, qui est du répertoire, disons, voilà. Ce qui est fascinant dans les œuvres bien construites, c'est qu'on a l'impression qu'elles vivent d'une vie qui leur est propre, quoi. Elles vivent d'une vie qui leur est propre et de temps en temps, il y a quelqu'un qui entre en relation avec cette œuvre et qui la manifeste dans le temps linéaire.
Qui l'incarne,
voilà. Et pof, puis ça disparaît. Où est-elle? Alors, l'Europe occidentale a développé, dès l'époque carolingienne, une science de l'écriture des sons. Et alors, il est très instructif de voir comment cette évolution s'est faite, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Mais on commence à réfléchir vers la fin du 8e siècle. faut attendre tout le 9e siècle pour arriver à des systèmes cohérents. Mais ce sont des systèmes cohérents qui, remarquez-le, ne notent ni les hauteurs du son, ni les durées, mais qui notent les articulations du discours et qui notent l'ornementation. Alors, ornementation est un mot français qui peut nous détourner de la réalité, de ce que nous appelons l'ornement. Je préfère employer le mot grec, qu'utilisent toujours nos amis Hélène, qui est energia. En fait, l'energia, c'est le mouvement interne du son et qui va faire qu'à partir d'un degré particulier, d'un degré distinct, eh bien, on va aller vers un autre degré. Et donc, il faut créer le mouvement. Ce mouvement, c'est la energia. Donc, vous voyez, les premières notations du 9e siècle, elles notent l'ornementation et les articulations. Mais nous n'avons pas les intervalles. Et pour les intervalles, il va falloir entendre le début du 11e siècle. C'est seulement autour de l'an 1000 qu'on a dû faire les premières tentatives pour noter les intervalles, et on les note sous forme alphabétique. Il faudra attendre encore le 13e siècle pour qu'on arrive à décrire les durées avec précision. Le 13e siècle, donc, qui est un siècle fascinant dans la relation que l'Occident développe avec le temps. C'est le moment de la rationalisation des durées où on va mettre au point l'horloge mécanique, où un philosophe qui enseigne à Paris, Kilwarby, un Anglais, énonce la théorie d'un étalon pour mesurer le temps. Un étalon qui aurait, avec une heure, qui ferait 60 minutes, qui elle-même ferait 60 secondes, et que l'on détermine avec l'horloge mécanique. Donc c'est ce temps artificiel dans lequel aujourd'hui nous évoluons plus ou moins allègrement, parce que c'est un temps qui crée aussi des tensions, parce qu'il est, décalé par rapport au rythme cosmique, décalé par rapport au rythme du corps. Mais c'est ce 13e siècle qui va progressivement construire des théories pour pouvoir décrire les durées musicales. Et les musiciens, naturellement, sont au premier rang de tout ce travail de rationalisation que l'on observe dans tous les domaines de la société, dans le domaine juridique. On va déterminer que telle faute mérite tant de temps d'incarcération, même dans le domaine culinaire, vous voyez, voilà, cuisson, le temps, etc. Alors, le développement de ces outils ont permis de noter la musique de manière de plus en plus précise, mais, il y avait toujours des choses que l'on ne notait pas. Et c'est tout cet aspect d'énergie que j'évoquais, l'ornementation, la manière de présenter la chose. Hein. Encore présenter la chose, voyez-vous, les chanteurs grecs ont cette belle expression, ils disent faire l'exégèse de la mélodie. Voyez. Parce que la mélodie, elle est là, elle est donnée, bon, elle est donnée par la tradition, mais maintenant, vous devez en faire quelque chose, vous. Vous devez la transmettre. Et pour la transmettre, il faut qu'elle passe par vous. Donc, parce que vous avez compris déjà de cette histoire, de cette provenance, si vous n'avez pas compris tout de son histoire, ce que vous avez compris de la manière dont la chose s'articule. Parce que pour transmettre une parole, il faut être capable de la construire. Donc, le mot lui-même, mais le mot dans le discours. Donc, bien manifester les différentes périodes au travers de laquelle le sens va se déployer. Et c'est sans de ce déploiement du sens que va se créer le lien avec ce qui écoute. Donc cette relation trinitaire entre quelque chose qui est reçu, ça peut être un texte, ça peut être un chant, une mélodie, et puis celui qui va le transmettre et ce qui écoute, c'est une relation qui est très bien décrite au début de l'Apocalypse, Vous avez heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute la parole de la prophétie. Alors, je dirais, malheureusement, en Occident, on a tellement développé le rôle de l'écriture et, que progressivement, on a perdu beaucoup de choses qui sont du domaine de l'instant et de l'individu. Vous voyez, surtout dans le domaine de la musique, on a fini par croire que faire de la musique, c'était lire une partition et de le restituer avec fidélité, parce que les longues, les brèves sont indiquées. Et le fait qu'à partir du 19e siècle, on demande de moins en moins aux interprètes d'apporter quelque chose à la construction de l'œuvre, eh bien, va faire que l'art de la musique va devenir de plus en plus une sorte de fonction mécanique qui est subordonnée d'ailleurs à la forme musicale qui devient dominante à la fin du 19e et au 20e siècle. Hein. C'est l'orchestre symphonique, l'opéra. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir le budget d'un opéra et le budget d'un ensemble artisanal. Et vous allez tout de suite comprendre où est l'investissement et dans quel domaine le corps social aime s'identifier et se projeter, vous voyez. Naturellement, lorsque vous avez 80 ou 100 musiciens, bon, il faut qu'il y ait de l'ordre, de la mesure, il faut qu'il y ait un consensus. Ce consensus, bon, il est à 95% donné par la partition elle-même, et puis les 5% qui restent, c'est le chef, celui qui va mettre les choses en place et leur donner la fluidité et le relief. Alors, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux musiques dites anciennes, dans les années 60, 70, alors en fait, on appelait à cette époque musique ancienne, c'est tout simple, la musique ancienne, c'était ce qui n'était pas enseigné dans les conservatoires, en fait, voilà, c'est tout simple. Alors, les conservatoires ont commencé, la préhistoire de la musique, c'était Bach. Alors, parler des précurseurs de Bach, alors là, on remontait timidement vers le milieu du 17e, mais pas trop, parce que vous savez, dans ces terres inconnues, on sait déjà, on peut se faire mordre, c'est dangereux. Bon, et puis, moi, je me souviens quand j'étais étudiant conservatoire, il y avait un violoniste de l'opéra qui disait ah, moi, je fais du Bach, c'est pour faire les gammes, Bach, c'est pour faire les gammes. Bach, c'est les gammes, après, c'est la musique qui arrive avec Mozart. Donc, on revenait de loin parce que, on était tout simplement dans un temps naturel, quoi, qui avait été un petit peu allongé parce qu'il y a eu au 19e siècle un travail d'édition important. Mais ce que je veux dire naturel, c'est que naturellement, dans une société, la mémoire ne remonte pas plus loin que l'arrière-grand-père, quoi. Hein? Imaginez vous-même que vous n'ayez jamais lu un livre, et vous n'êtes pas sorti de votre trou, quoi. Les choses les plus anciennes que vous allez avoir, c'est votre arrière-grand-père. Et en fait, on voit très bien dans la manière dont on parle du passé encore, voyez-vous, Glarian, qui est un humaniste du début du 16e siècle, un homme qui connaît toute son époque, qui vit en Suisse, quand il parle de l'histoire de la polyphonie, il dit que la polyphonie a commencé avec Ockeghem. Ockeghem, c'est son arrière-grand-père. Quoi. C'est le temps de son arrière-grand-père. Et il n'imagine pas, au début du 16e siècle, qu'il y avait d'autres formes musicales au 13e ou au 12e siècle. Enfin, bon, où il identifie pour eux. Ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, dans le monde arabe, hein, quand on vous parle en Égypte de musique classique, la musique classique, ce n'est pas le 18e siècle, c'est le 17e. La musique classique, c'est Umm Kulsoum, ces années 1930. Et puis au-delà, alors ça devient la préhistoire. Là.
C'est par ignorance.
C'est par ignorance. Et puis, bon, il n'y a pas les outils aussi. Les premiers enregistrements qu'on a de musique arabe, c'est le congrès du Caire, organisé par le baron d'Erlanger. C'est les années 1930-32, je ne sais plus exactement. Mais c'est les premiers qu'on a. Et puis, il n'y a pas de notation. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on était encore dans les années 60 dans ce phénomène qui est naturel. C'est-à-dire, voilà, ben voilà, donc on connaît Berlioz, machin, tout ça, et puis on remonte un petit peu jusqu'à Mozart. Mozart, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu une renaissance de Mozart, on a réédité ses œuvres, tout ça, donc il a été maintenu. Puis Bach, c'est la même chose. S'il n'avait pas eu Mendelssohn, peut-être qu'on n'aurait pas découvert qu'il n'aurait pas la place que Bach a aujourd'hui dans nos imaginaires collectifs. Alors, des années 60-70, il se passe quelque chose de vraiment nouveau dans l'histoire de la pensée, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui ont des inspirations comme ça, des intuitions, qui disent, mais attendez, oui, c'est beau, Schumann, Beethoven, tout ça, mais on peut avoir des émotions esthétiques, il y a des arts qui sont aboutis, mais même avant, au 17e, au 16e, 15e, voilà, bon, c'est bon, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est juste des étincelles, vous voyez, qui apparaissent comme ça, qui n'ont pas un grand impact, hein, à l'époque, mais ça, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau et c'est contemporain aussi avec une ouverture géographique. C'est qu'on commence à connaître ce qu'on va appeler, à commencer à appeler à l'époque les musiques du monde. Alors on voit que, ah oui, là, donc t'es de la Méditerranée, ah, il y a la manière de jouer du oud, du luth, c'est pas mal. Ah, Bali, ah, la musique indienne. Ça devient, voilà, ça se répand, même si bon, au début du XXe siècle, on commence à avoir hein, quelques personnalités qui s'y intéressent. Mais avec des collections discographiques aussi, et là je pense à une collection comme Okora, hein, de France Musique, de Radio France, qui a joué un rôle vraiment moteur quoi, dans ces découvertes. Bon. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on apprend à regarder globalement l'histoire de la musique et finalement l'histoire de l'humanité aussi. C'est le moment où Lévi-Strauss aussi, pour résumer son travail, il aimait bien dire, voilà, finalement j'ai commencé à comprendre comment ça marchait cette société, parce que j'imagine l'humanité comme une grande partition d'orchestre, quoi. Et chaque culture, ben, je fais un instrument, une voix, vous voyez, donc voilà, une partition d'orchestre, vous avez 50 lignes. Et puis voilà, donc là, il y a les Maoris voilà, qui font des choses comme ça, là. À l'Institut de France. Une fois, j'ai entendu une interview, il se décrivait en train de s'habiller en académicien. Alors, il se décrivait alors, comme s'il décrivait justement un Maori qui s'habillait avec ses plumes. En fait, on a tous ces rites chez nous aussi. Et donc, pour la musique, intuitivement, parce qu'il y a quand même peu de gens qui l'ont formulé, mais intuitivement, on sentait ce mouvement qui se développait. C'est que finalement, on comprenait que chaque siècle, chaque période et même chaque civilisation éloignée de l'Europe apportait quelque chose à la compréhension globale, finalement, de ce qu'est la musique. Qu'est-ce que la musique? Pourquoi fait-on de la musique? Et comment transmet-on la musique? Parce qu'en fait, quand on essaie de comprendre le sens et la pertinence d'un objet, en fait, une bonne approche, c'est d'observer comment la chose se transmet. Et là, on a appris énormément de choses en observant dans des traditions qu'on peut dire vivantes, et des traditions qui sont transmises par la mémoire, en utilisant très peu l'écrit, ou si on utilise l'écrit, observer comment l'écrit est utilisé aussi, parce que vous voyez, lorsqu'on essaie d'aller vers les sociétés passées, il faut vraiment être attentif à tous les outils dont nous disposons de par notre culture, notre éducation. Hein, quand je dis lire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire lire pour un homme du 11e siècle, vous voyez? Pour un homme du 2e siècle, vous voyez? Et si je rentre plus loin encore, 10 siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire lire? Et naturellement, commencer à réfléchir à ces choses-là, à imaginer. Comment on apprend à lire? Comment déjà l'acte de lire, vous voyez? Par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, on ne lisait pas à voix basse, on lisait toujours à voix haute. Plus vous remontez dans le temps, plus l'acte de la lecture est difficile. Il n'y a pas de ponctuation. Les mots sont liés. Vous devez voir où commence le mot, où il termine, ah bon, où est la fin de la phrase. Il n'y a pas de paragraphe. Parfois, même dans des manuscrits, il y a un livre qui se termine, et la ligne suivante, c'est un autre livre qui n'a rien à voir, qui commence. Alors, vous lisez, puis vous continuez, là, oh là, je ne comprends plus rien. Oui, c'est bon, c'est un autre truc qui commence, mais ce n'est pas indiqué. Donc, en fait, plus on remonte dans le temps, plus la faculté de discernement et sollicité. Et puis on arrive ici, mais comme une espèce d'accélération, il faut aller vite, quoi. Donc il faut que tout de suite, vous compreniez, ah, bon, ça c'est le paragraphe qui commence, ponctuation, là il faut que je respire, là ça change de sens, voilà. On met des flèches, des machins, et puis on va, maintenant vous avez les revues pour les jeunes, il n'y a que des photos avec même pas plus de deux lignes, quoi. Parce que plus de deux lignes, oh, ça ne marche pas, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans une espèce de seuil où on est en train de sortir de l'écriture. En fait, on va vers l'image. Bon, mais ça, c'est autre chose. Je reviens à l'acte de lire. Alors, il est bon d'observer comment cet acte de lire existait, quoi, à différentes époques. Bon, déjà, plus vous remontez dans le temps, plus le livre est précieux, quoi. Rendez compte, ça représente un livre, un in-folio comme ça. Bon, ça, c'est à peu près un ou deux moutons par feuille. Donc, vous voyez, si toutes les deux pages, il faut tuer un mouton pour écrire votre carnet. Vous voyez, c'est un travail colossal, quoi. Hein? Parce que quand on dit un scriptorium, aujourd'hui, on s'imagine que dans chaque monastère, il y a un scriptorium, il y a des moines qui écrivent. Non, en fait, il y avait jusqu'au XIIIe siècle, il y a peu de scriptoriums. Il y a quelques grandes abbayes qui ont un scriptorium, parce qu'un scriptorium, c'est toute une industrie à côté. Il faut des élevages de moutons, les tanneries, les moutons, il faut les manger aussi, quoi. Donc, vous tuez 1000 moutons, bon, faut les manger. Bon, donc, il faut qu'il y ait du monde aussi. Enfin, bon, toutes ces choses-là, c'est vraiment très compliqué de faire un livre. Et puis, le temps que ça prend, évidemment. Donc, le livre est quelque chose de précieux, c'est, il a fonction de relique, parce qu'en même temps, il y a une mémoire. Il y a une mémoire, c'est le signe d'une mémoire. Donc, il est le signe d'une mémoire, et il faut rentrer dans l'expression de ce signe pour avoir accès à la mémoire, parce que l'objectif, c'est d'avoir accès à la mémoire. La mémoire qui est vécue comme quelque chose de vivant, qui dépasse infiniment les individus. Mais il faut avoir accès à cette mémoire. Et dans ce travail vert, eh bien, l'outil privilégié, c'est le chant. C'est pour ça que saint Augustin, à la question de son fils qui lui demandait « Papa, qu'est-ce que chanter ?» lui répond « Chanter, c'est se souvenir. » Et lorsque vous allez lire le texte, lire un texte à haute voix, en fait, c'est le cantilé. Et c'est le cantilé pour le faire sien, voilà. L'introspection, le faire rentrer en soi. Et puis on n'est pas pressé, parce que il faut déjà il faut que vous regardiez comment le texte s'articule, donc comment les mots interagissent les uns sur les autres, où sont les articulations, donc les respirations donc les silences. Et alors vous allez lire un petit paragraphe qui peut être de 10 lignes, ça, puis vous allez le faire rentrer. Et puis après vous avez le phénomène de la recordation, c'est-à-dire faire rentrer dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le faire rentrer dans son cycle vital. Recordare, c'est mettre en phase avec sa respiration et son corps, que ça devienne quelque chose qui est intégré, pour le mettre en mouvement, pour créer un mouvement. Parce que c'est dans le mouvement que l'on va donner à la phrase que, progressivement, le sens va se révéler. Et donc là, je vous parle de choses qui existent bon, jusqu'au XIIIe siècle. Disons, la lecture, c'est ça. Au XIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Développement de l'université. Alors bon, il ne faut pas s'imaginer les universités comme maintenant. Hein. Bon, ce ne sont pas des universités avec 15-20 étudiants. Hein. Bon. Mais quand même, quand vous trouvez même à 10 dans une même salle, si chacun lit tout haut, ça va poser des problèmes. Donc, c'est avec ce dialogue d'université, les ordres mendiants ont joué un rôle. rôle important aussi dans ce processus qu'on va développer. Oh, ça a existé. Hein. Il y avait quelques personnes qui lisaient Silencieux hommes, c'était extrêmement rare. On a ce témoignage de saint Augustin, qui, la première fois qu'il rencontre saint Ambroise, il est avec un livre et puis il lit silencieusement. Et saint Augustin n'avait jamais vu quelqu'un qui lisait silencieusement. Je dis, wow, qu'est-ce qu'il fait avec ce livre? Il regarde le livre, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, vous voyez, l'art de la lecture, est, je dirais, était immédiatement associé au son. Parce que le texte va exister que s'il devient son. C'est à partir du son que l'on va... Alors, le XIIIe siècle, donc, lecture intérieure, et c'est au même moment qu'on développe aussi une espèce de lecture silencieuse de la musique. Ce qui était pratiquement impossible avant, parce que vous aviez des notations, comme je vous l'ai dit, qui n'indiquaient pas les intervalles, les rythmes étaient indiqués. Donc, voilà, il fallait que ça s'incarne, quoi. Et là, grâce à ce système qui va être en place, on va pouvoir, je dirais, faire l'analyse, faire l'autopsie d'une mélodie. Mais, voilà, ah, tiens, là, ça marche comme ça. Puis si ça, je le mets là, et ça, je le mets là. Ah, tiens, ah. On va créer comme ça une géométrie du temps. C'est-à-dire, on sort l'objet du temps, parce que avant la mise au point de ces outils, pour répéter une polyphonie, ben, on est obligé de chanter. Quoi. C'est-à-dire, attends, toi tu descends là, d'un ton, non, et c'est d'une tierce. Mais là, je vais faire ça. Ouais. Il fallait passer par l'acte. Et là, pof, sur le parchemin, ou sur le papier encore, mais c'est sur l'ardoise, en fait. Les brouillons, on les faisait sur ardoise. Ouais. Ça va complètement changer la relation à la lecture. Parce qu'ensuite, il va y avoir deux lectures. La lecture avant et la lecture pendant l'exécution. Et la lecture pendant l'exécution va devenir le support de quelque chose d'autre. C'est ce qu'on va appeler le cantus super librum, le chant sur le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on chante en regardant le livre, mais on ne chante pas ce qui est écrit. Mais on chante quelque chose qui est en harmonie, en consonance avec ce qui est écrit. Donc, on développe cette lecture en creux, cette lecture de l'invisible. C'est-à-dire, voilà, ce qui est écrit peut générer d'autres formes qui vont rentrer en phase. Donc, voilà, c'est l'art du cantus super librum qui va se développer à partir du XIIIe siècle. Et puis, oui, jusqu'au XVIe siècle inclus, c'est vraiment... Je dis ça grosso modo, mais 70% de l'art polyphonique, il se fait en improvisation orale. La chose écrite, c'est ce qu'on appelait la res facta. Et improviser la polyphonie sur le plein chant, c'était le cantus super librum, qu'on appelait aussi le cantus ex tempore. Alors le ex tempore, c'est... une notion importante parce que c'est ce qui va jaillir du temps, de l'instant. Et l'instant, on sait par Jérôme de Moravie, qui est un théoricien de la musique dominicain du XIIIe siècle, qui a écrit une encyclopédie de la musique, et il parle d'instant. Pour lui, l'instant, c'est la plus petite unité de son perceptible et reproductible. Et l'instant, regardez comment le mot est construit, c'est instare, se tenir dans. C'est-à-dire, l'instant, c'est cette conscience du moment présent. Et le chant extemporé, c'est le chant qui va manifester l'enchaînement, le développement... la manière dont vont se répandre dans le temps et dans l'espace les successions d'instants. Et ces instants vont se manifester par rapport à un champ donné, le cantus qu'on appelle radix, c'est-à-dire c'est la racine. Et de cette racine, on va en extraire la sève, et de la sève, les feuilles, et la feuille, les fleurs. C'est pour ça que le sommet de l'art polyphonique, c'est le florizare, florizatio. On pourrait dire ornement, mais eux disaient la fleur. Ouais. L'art de florizare, qui est l'art de l'instant. Et alors, en plus, quand on chante, alors plus ça sera, c'est solennel, plus on va improviser à deux voix, à trois voix et à quatre voix pour les grandes solennités, parce que là, on est un groupe. La caterva, la phalange, qui va s'assembler pour manifester cette montée de sève et révéler ce qui doit être révélé. Donc, on est encore jusqu'au XVe siècle inclus et première génération du XVIe siècle dans une pratique de la polyphonie qui est pratiquement une pratique divinatoire, dans le sens divinatoire des anciens rites de l'Antiquité, voyez, où le templum, c'est d'abord le lieu où on observe les signes. Donc, la manière dont va se construire la polyphonie dans des moments cruciaux de la liturgie, parce que la polyphonie intervient dans ces traditions du XIIe, du XIIIe siècle, du XIVe, à des moments précis. Jusqu'au XIIIe siècle inclus, c'est entre l'épître et l'évangile. C'est-à-dire, vous allez avoir un jour de grande solennité, à peu près entre 20 minutes, voire une demi-heure de polyphonie, avant d'entendre la proclamation de l'évangile. Précédemment, pendant l'office de nuit, où on proclame l'évangile pour la première fois, à la fin d'office de nuit, vous avez l'organum, donc la polyphonie, elle est aussi, c'est le dernier répond, avant l'évangile. Ensuite, vous allez retrouver l'organum au deuxième vêpre. Donc, les vêpres qui sont en deux parties. Première partie, le temple de Jérusalem, le chant des psaumes, et puis le capitule, et puis on part vers le Nouveau Testament avec l'hymne et le cantique évangélique, le Magnificat, le Benedictus. Et là, la polyphonie va arriver avant l'hymne. Donc la polyphonie, c'est le portail qui va ouvrir l'écoute de la nouvelle révélation. Donc, ce qui va se passer pendant cette polyphonie doit révéler ce qu'on est en train d'accomplir et ce qui va venir, ce qui va se révéler dans cette proclamation de l'Évangile. La raison pour laquelle on est extrêmement attentif à... Et alors, on sait par exemple que Saint Louis, avant des événements importants du royaume, ou avant une bataille, se faisait chanter dans la nuit une messe en organum, avec la polyphonie. Et le chantre a une fonction, le chantre c'est le chapelain aussi à cette époque-là, hein. Il a une fonction essentielle dans l'accompagnement de la fonction royale. Ils sont toujours derrière le roi. Et dans la bataille, les chantres, là on sait par la description de Bouvines, la bataille de Bouvines, le roi est dans la mêlée et derrière il a deux chantres qui chantent des psaumes. Et le chroniqueur dit que leur voix était tellement forte qu'il couvrait le fracas des armes et des trompettes. Et c'était les psaumes, enfin c'est les psaumes qu'on chante au moment du sacre.
Il y avait donc tout un cérémonial sacré.
Oui, ben oui, le chant est, voilà, est l'outil d'un rite, et puis c'est le chant qui va rythmer tous les grands moments aussi, en dehors de la liturgie elle-même, les grands moments de la journée. Alors, au XVIe siècle, les choses vont changer, enfin, l'Occident change profondément, bon, il y a la réforme qui va vraiment briser, quoi. L'unité, parce que même si, bon, ici, il y avait des remous, tout ça, jusqu'à la fin du XVe siècle, il y a quand même, bon, une unité doctrinale, dominante, et ceux qui sont bien intégrés dans ce mouvement-là ont la sensation de vivre dans une sorte d'absolu, quoi, voilà, d'une société qui est vraiment à l'image de la cité céleste. Mais les choses changent, et puis, donc, ce côté que j'évoquais, c'est le côté divinatoire, prophétique, voyez, va devenir suspecte, comment ça, parce qu'on a peur que l'hérésie se glisse dans ces manifestations. Et donc ça va être la contre-réforme, le Concile de Trente, qui va créer une religiosité et une liturgie très stricte, très déterminée, avec des choses qui sont très très précises, avec le souci aussi, déjà à l'époque, de commencer à unifier la liturgie, parce que encore au XVe siècle inclus, il y a des pratiques très très diverses en Europe. Pratiquement chaque diocèse a sa manière propre, même si on trouve effectivement comme patrimoine commun ce qu'on appelle le chant grégorien, mais la manière de le chanter était très très diverse. On a des témoignages très clairs là-dessus. Et même au XVIIIe siècle, vous avez au XVIIe, XVIIIe, vous avez des voyages liturgiques, quoi, dans le sieur de Mauléon, qui décrit ce qu'il entend dans la cathédrale, et qui est toujours, presque toujours, très surpris par ce qu'il entend, parce que c'est très différent de ce qu'il connaissait. À Sens, cathédrale de Sens, par exemple, à Sens où la devise était « Ici, rien ne bouge ». Mais visiblement, au XVIIIe siècle, il chantait encore comme à l'époque carolingienne, quoi. Parce que tous les voyageurs qui les ont entendus chanter sont étonnés. Mais comment on n'a jamais entendu chanter comme ça? Un chant très grave, très lent. Donc il y a déjà avec le Concile de Trente une volonté d'unifier un peu. Et ensuite, on les
craint d'assurer. Et puis aussi une musique qui est davantage destinée à un public aussi.
Alors, à toutes sortes de publics, je dirais. En fait, le premier public, je dirais, c'est les anges. C'est-à-dire, donc on se préoccupe pas trop aussi. Il y a un psaume qui dit ça. Enfin, mettez-vous en présence des anges pour psalmodier, pour chanter. C'est d'abord ça. Il faut créer une harmonie, quoi. Il faut créer une harmonie dans le temps cosmique. Donc ça, c'est la fonction déjà, j'irais macro. Dimensionnel de la liturgie, donc suivre tout le rythme annuel, donc grâce à la liturgie, vous savez quand sont les équinoxes, quand sont les solstices. Donc ça, c'est, je dirais, c'est un office pour la société. Aujourd'hui, ces choses-là sont très, je dirais, délavées, parce que comme on a tous un calendrier, on en a des montres, ça, mais imaginez que vous n'ayez pas d'agenda, rien. Comment vous allez savoir qu'on est après la troisième pleine lune de l'équinoxe? C'est le rôle des religieux, quoi. La fonction du comput ecclésiastique. Et c'est des fonctions qui remontent à l'Antiquité aussi. Les premières fonctions des augures dans la religion
romaine. Et des fêtes qui s'étendent le temps.
C'est la première chose, être présent au cycle cosmique. Après, il y a être présent au cycle de la révélation. C'est-à-dire, on va greffer sur ce cycle cosmique une initiation progressive au mystère de la religion, quoi, qu'on peut prendre en cours de route. Et de toute façon, c'est cyclique. Ouais. Donc il y a ce temps cyclique que la liturgie met en œuvre. Après, il y a l'autre temps. Alors, c'est bien ici, toujours que lorsqu'on parle du temps, d'avoir en tête les trois schémas du temps que les Grecs ont développé avec le Kairos et l'Aion. C'est-à-dire, vous avez le temps chronologique, et puis après, vous avez un temps qui est la rencontre entre l'individu et le temps cosmique, quoi. Et ce qui se passe. Par exemple, on a tous un corps. Pendant quelques dizaines d'années, on jouit d'un corps. Mais ce corps, on n'y est pas pour grand-chose. Hein. Ce corps est le fruit de milliards d'années d'évolution. Donc, dans notre corps, il y a son résumé des milliards d'années d'évolution. Et nous, on s'en sert un tout petit peu, en fait. Hein. On ne sait pas trop comment ça marche. Et donc là, il y a la rencontre entre une conscience individuelle qui rentre en relation avec quelque chose qui la dépasse, mais qui devient un véhicule pendant quelques dizaines d'années. Et on a cette même relation avec la culture aussi. Tout à l'heure, quand je parlais de mémoire, ça, là aussi, quand on est dans cette société, on a plein de choses qui remontent à Aristote, à l'Égypte ancienne, à tout ce que vous voulez. On peut s'en servir ou ne pas s'en servir, ou l'ignorer, ou permettre aux autres d'entrer en relation aussi. Donc ça, c'est cette rencontre entre l'être, la personne, et ce grand souffle, quoi, qui nous dépasse et qui continuera bien après que nos véhicules temporels aient disparu. Et ensuite, il y a le troisième temps. C'est le temps, on dirait, je dirais, de la révélation. C'est le temps de la rencontre, le temps de la prophétie. Rencontre, tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire une phrase. Alors, l'image, c'était Hermès, à un croisement d'un chemin. On le prend pour un voyageur banal. Et puis, il va vous dire trois phrases qui vont complètement... Et ça, c'est un temps qui existe aussi dans la liturgie. C'est le temps parce que, voilà, on a cette lecture de l'Évangile. Et puis, bon, on peut l'écouter comme ça. Tout d'un coup, il peut y avoir ce moment d'une révélation. Et je dirais, cette manière d'aiguiser ce sens de l'écoute, ce sens de l'instant, ce sens de la présence, eh bien, la musique, je dirais, va nous préparer, nous mettre en condition psychique d'ouverture. C'est pour ça qu'avant l'Évangile, dans les grandes traditions du 12e, du 13e siècle, on passait autant de temps à chanter et à chanter des choses créé sur l'instant pour qu'on sente ce qui est en train de se créer, cette communauté qui est là, voilà, qui est rassemblée autour de quelque chose. Et cette chose va prendre tout d'un coup, va s'incarner dans une parole humaine. Mais s'incarne dans une parole humaine, et là je terminerai par ça, qui n'est pas proclamée n'importe comment. Un détail qui a échappé à nos contemporains, c'est que jusqu'au dernier concile, en fait, l'Évangile était proclamé vers le nord et devant le mur. Donc là aussi, alors le public, quel public? Eh bien, parce que, alors, pourquoi? Pourquoi? Vous chercherez dans la bibliographie, moi je n'ai pas trouvé encore d'explication satisfaisante, mais quand on réfléchit un peu, qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers le nord? Bon, se tourner vers le nord, déjà, bon, on est vers, dans nos hémisphères, vers un pôle magnétique. Bon, il y a déjà, et nous sommes dans des sociétés avec des hommes qui sont extrêmement sensibles aux azimuts. Aujourd'hui, quand on dit azimuté, d'ailleurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'on ne sait plus où on est. Mais à l'époque, ben, vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas. Si vous devez être conscient toujours quand vous allez voyager, où est nord, le nord, le sud. Enfin, c'est des choses qui sont banales à l'époque. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous vous paumez, vous ne sortez pas de chez vous. C'est très simple. Donc, lorsque vous êtes tourné vers l'est, vous êtes tourné vers le nord, vers le sud, vous ne ressentez pas les mêmes sensations. Donc il y a cette chose-là. Après, c'est quoi se tourner vers le nord? C'est aussi se tourner vers une direction qui nous ouvre vers une partie de l'univers vers laquelle on se sent attiré. Il y a l'étoile polaire, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle étoile polaire. Et lorsque l'homme proclame l'Évangile, c'est en fait c'est un processus, c'est le Verbe qui a pris forme humaine, mais ce Verbe, ce principe actif, c'est celui de l'univers, c'est-à-dire l'homme, le médiateur, le proclame, pour ceux qui ont des oreilles, le proclame aussi à la face de l'univers. C'est l'homme qui devient le médiateur entre une divinité qui veut être accessible, qui veut rendre conscient, qui veut rendre manifeste son principe créateur, et qui le proclame à la face de l'univers. Ensuite, on est devant un mur, devant de la pierre. Alors, vous avez peu d'églises aujourd'hui qui ont conservé ça, mais si vous avez la Sénanque, eh bien, vous verrez, il y a encore le pupitre d'Évangile qui est dans le mur, qui est, ça, c'est un creux qui est dans le mur. Et dans les églises qui sont bien construites, lorsque vous chantez face à ce mur de pierre, quand vous êtes dans la nef, vous entendez la parole qui sort de tous les murs, quoi. Vous êtes entouré par le Verbe. Ouais. Et en fait, c'est la réalisation de ce qu'on signifie lorsqu'on consacre une église. Voyez. Qu'est-ce qu'on fait quand on consacre une église? Une des premières choses que fait le célébrant, quand il entre dans l'église, il trace sur un tapis de cendres l'alphabet grec et l'alphabet latin qui se croisent. Pendant qu'on chante le Benedictus qu'on chante tous les matins à la fin des lodes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce lieu, physiquement, devient le lieu du Verbe. L'Église elle-même devient le Verbe. c'est-à-dire l'outil qui va transmettre ce principe actif qui est à l'œuvre dans l'univers. Et ensuite, avec cette cendre où on a tracé l'alphabet, on va la récupérer, on va la mélanger à l'eau lustrale, et on va se servir de cette eau pour bénir tous les murs. Et on ne va pas sur tous les murs, cette eau sera sur tous les murs. Alors, quand il réalisait cette lecture de l'Évangile, cette proclamation de l'Évangile, il le faisait en entrant réellement dans ce qu'est le signe de la consécration. Et grâce à cette science qu'ils avaient de la pierre, leur science du son, leur science du temps, parce que proclamer, c'est mettre en phase l'édifice, la manière dont l'air, la colonne d'air va se répandre dans l'édifice. Bien, grâce à ces trois connaissances, eh bien, ils arrivaient tout simplement à célébrer et à transmettre.
Alors j'ai une question. Dans quelle mesure cette musique sacrée transfère-t-elle ses effets à d'autres types de musique, à des musiques profanes, par exemple?
Oh, qu'est-ce qui est profane, qu'est-ce qui est sacré?
Parce que là, quand même, ce que vous nous dites, ça concerne surtout la musique dans le lieu même de l'Église et dans, et dans le rituel.
Mais si vous tout est rituel, en fait. Je crois qu'il faut bien voir, mais bon, dans des domaines différents, à des degrés différents. Vous voyez, on parlait de Frank Sinatra au déjeuner. Oui. Bah, c'est un rituel, c'est-à-dire... Vous voyez, et si vous dérogez à un paramètre ce rituel, vous voyez, on va dire c'est faux, ça sonne mal, vous voyez. D'où la difficulté. Si je veux chanter du Frank Sinatra, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'imiter, je vais être ridicule. Bon, si je mets un chapeau comme ça, je vais être ridicule. Lui, quand il met un chapeau, ça marche. Ça marche. Et quand vous regardez, mais vraiment, en fait, tout est rite, quoi. C'est-à-dire, et même vous allez à un concert de rap ou de musique destroy, tout est rite, quoi. C'est-à-dire, même la manière dont ils sont habillés, rien ne doit jurer, quoi. En fait, il y a toujours une harmonie interne. Il y a toujours une harmonie interne qui fait que, quand l'harmonie est là, ça va créer l'enthousiasme, ça va créer l'adhésion de ceux qui sont là et qui, intérieurement, se reconnaissent dans ce qu'ils voient sur scène, vous voyez. Donc, ça touche quelque chose, mais ça va les toucher... Si c'est vraiment en harmonie, quoi.
Voilà, c'est ça.
Sinon, ça marche pas, quoi.
C'est ça. Alors, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une exigence de la part des musiciens ou des chanteurs. Il faut que. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin des interviews de Frank Sinatra, justement, qui était très exigeant à l'égard de ses collègues, de ses confrères, qui disait que, au-delà du génie que pouvait avoir Judy Garland ou Ella Fitzgerald, il disait qu'elles articulaient mal. Il leur reprochait notamment de ne pas respecter le texte, de mettre des coupures là où, selon lui, il ne fallait pas mettre de coupures.
Oui, c'est tous ces chanteurs, c'est vraiment des maîtres dans l'art de dire un texte, quoi. C'est tous ces chanteurs-là.
Oui, oui.
Et c'est leur manière de le dire qui fait, voilà, bon, on a un Brassens, un Jacques Brel, ben c'est, ce qui nous fascine, c'est la manière dont ils disent le texte, quoi.
Oui, oui.
Parce que c'est tout à fait personnel et puis c'est vrai, quoi.
Pour conclure, je voudrais mettre l'accent sur l'intérêt que portait Jacques Merlet aux jeunes musiciens, aux musiciens chercheurs, justement, avec de grandes exigences. Et il était très curieux, justement, de ses recherches et de ses essais des jeunes musiciens, et il était sans cesse à la recherche de leur travail pour les aider à être connus et appréciés.
Ouais. Merci Jacques.
Très bien, merci.